Chapitre 10e. Pendant que Madame de Beauménil était restée silencieuse, songeant au moyen d'amener Herminie à quelques révélations sur sa vie, la jeune fille, debout et feuilletant son cahier de musique pour se donner une contenance, attendait que la comtesse l'invitât à se mettre au piano. « Vous allez me trouver bien fantasque, mademoiselle, » lui dit la comtesse, « car si cela vous était indifférent, je préférais vous entendre au piano. » « Vers 10 heures, c'est ordinairement l'heure de ma crise. Peut-être y échapperai-je aujourd'hui, si ce mieux continue. Dans le cas contraire, je regretterais d'avoir usé trop tôt d'une ressource qui, tant de fois, a calmé mes souffrances. Ce n'est pas tout. Après m'avoir trouvé fantasque, je crains que vous ne m'accusiez de curiosité, peut-être même d'indiscrétion. Pourquoi cela, madame? Veuillez vous asseoir là, près de moi, » reprit la comtesse du ton le plus affectueux. Et me dire comment il se fait que, si jeune encore, car vous ne devez pas avoir plus de 17 ou 18 ans. 17 ans et demi, madame la comtesse. Eh bien, comment se fait-il qu'à votre âge vous soyez si excellente musicienne? Madame la comtesse me juge trop favorablement. J'ai toujours eu beaucoup de goût pour la musique et j'ai appris facilement le peu que je sais. Et quel a été votre professeur? Où avez-vous été enseignée? J'ai été enseignée dans la pension où j'étais, madame la comtesse. « À Paris ?»« Je n'ai pas toujours été en pension à Paris, madame. »« Où étiez-vous donc avant ?»« À Beauvais. »« J'y suis resté jusqu'à l'âge de 10 ans. »« Et de là ?»« J'étais mise en pension à Paris, madame. »« Et vous y êtes resté longtemps ?»« Jusqu'à 16 ans et demi. »« Et ensuite ?»« Je suis sorti de pension et j'ai commencé à donner des leçons de chant et de piano. »« Et vous avez... » Puis s'interrompant, madame de Beauménil ajouta avec embarras, « mais en vérité, j'ai honte de mon indiscrétion. Si quelque chose pouvait l'excuser, mademoiselle, ce serait l'intérêt que vous m'inspirez. » Les questions que madame la comtesse daigne m'adresser sont si bienveillantes que je suis trop heureuse d'y répondre, avec sincérité. « Eh bien donc, à votre sortie de pension, chez qui vous êtes-vous retirée ? Chez qui, madame la comtesse ? Oui, auprès de quelle personne ? Je ne connaissais personne. Auprès de qui me retirer, madame ? « Personne ?» dit madame de Beauménil avec un courage et un calme héroïque. « Mais, » reprit-elle, « vos parents, votre famille ?»« Je n'ai pas de parents, madame la comtesse, » répondit Herminie avec un courage égal à celui de sa mère. « Je n'ai pas de famille. » Puis Herminie se dit à elle-même, « Je ne puis plus en douter. Elle ignore que je suis sa fille. Sans cela, aurait-elle la force de m'adresser une pareille question ?»« Alors, » reprit madame de Beauménil, « auprès de qui vivez-vous donc ?»« Je vis seule, madame la comtesse. »« Absolument seule ?»« Oui, madame. » »« Et pardonnez-moi encore cette question, car à votre âge, une telle position me semble si exceptionnelle, si intéressante. Avez-vous toujours suffisamment de leçons ?»« Oh oui, madame la comtesse, » répondit bravement la pauvre Herminie. « Je n'en reviens pas. Et vous vivez ainsi toute seule, si jeune ?» « Que voulez-vous, madame? On ne choisit pas sa destinée, on l'accepte. Puis, le courage, le travail aidant, on tâche de se faire une vie sinon brillante, du moins heureuse. »« Heureuse ?» s'écria madame de Beauménil avec un mouvement de joie irrésistible. « Vous êtes heureuse ?» En disant ces mots, l'expression de la figure de la comtesse, l'accent de sa voix, trahirent un bonheur si grand que de nouveaux doutes revinrent à l'esprit d'Herminie et elle se dit « Peut-être elle n'ignore pas que je suis sa fille. » « Sans cela, comment tiendrait-elle à savoir si je me trouve heureuse ?»« Il n'importe, si elle sait que je suis sa fille, je dois la rassurer, afin de lui épargner des regrets, des remords peut-être. Si je suis pour elle une étrangère, je veux encore la rassurer, car elle pourrait croire que je désire exciter sa commisération, sa pitié, et mon orgueil se révolte à cette pensée. » Madame de Beauménil, voulant entendre Herminie lui réitérer une assurance si précieuse pour son cœur maternel, reprit « Ainsi, vous êtes heureuse, vraiment bien heureuse. » Oui, madame, répondit Herminie, presque gaiement. Très heureuse. En voyant le charmant visage de sa fille rayonner ainsi de beauté, de jeunesse et de joie innocente, la comtesse fit un violent effort sur elle-même pour ne pas se trahir, et elle reprit, en tâchant d'imiter la gaieté d'Herminie. N'allez pas rire de ma question, mademoiselle, mais pour nous autres, malheureusement habitué à toutes les superfluités de l'opulence, il est des choses incompréhensibles. Lorsque vous êtes sorti de pension, si modeste que fût votre petit ménage, comment y avez-vous pourvu ?
Oh, madame la comtesse, dit Herminie en souriant, j'étais riche alors.
Comment donc cela ?
2 années après que j'avais été mise en pension à Paris, on cessa de payer pour moi cette pension. J'avais alors 12 ans. Notre maîtresse m'aimait beaucoup. Mon enfant, me dit-elle, on a cessé de me payer. Mais il n'importe, vous resterez ici, je ne vous abandonnerai pas.
Excellente femme.
Ah, la meilleure des femmes, madame la comtesse. Malheureusement, elle n'est plus, dit tristement Herminie. Mais ne voulant pas laisser la comtesse sous une impression pénible, elle reprit en souriant.
Seulement, cette excellente femme avait compté sans mon défaut principal.
Car puisque vous me demandez d'être sincère avec vous, madame, il faut vous l'avouer, j'ai un bien grand, un bien vilain défaut.
Quelle prétention ! Voyons ce défaut.
Hélas, madame la comtesse, c'est l'orgueil.
L'orgueil ? Mon Dieu, oui.
Ainsi, lorsque notre excellente maîtresse me proposa de me garder chez elle par charité, mon orgueil de petite fille se révolta, et je signifiai à ma maîtresse que je n'accepterais son offre qu'à la condition de gagner par mon travail ce qu'elle voulait me donner pour rien.
À 12 ans, voyez-vous la petite glorieuse ?
Et comment faisiez-vous pour désintéresser votre maîtresse de pension ?
En donnant des répétitions de piano aux autres enfants moins fortes que moi, car pour mon âge, j'étais assez avancé, ayant toujours eu un goût passionné pour la musique.
Et la maîtresse de pension a accepté votre proposition ?
Avec joie, madame la comtesse. Ma résolution l'a touchée.
Je le crois bien.
De ce moment, j'ai eu, grâce à elle, un assez bon nombre d'écolières, dont plusieurs étaient bien plus grandes que moi.
Toujours l'orgueil, madame la comtesse.
Que vous dirais-je ? Ce qui avait été d'abord, pour ainsi dire, un jeu d'enfant, devint pour moi une vocation, et plus tard une précieuse ressource. À 14 ans, j'étais seconde maîtresse de piano, aux appointements de 1200 francs.
Ainsi, madame la comtesse, jugez des sommes que j'ai ainsi amassées jusqu'à l'âge de 16 ans et demi, car en pension je n'avais d'autres dépenses que celles de mon entretien.
Pauvre enfant, si jeune, si laborieuse, si noblement fière et déjà se suffisant à soi-même, dit la comtesse sans pouvoir cacher ses larmes, et elle reprit. Pourquoi avez-vous quitté votre pension ?
Ayant perdu notre excellente maîtresse, une autre lui succéda, mais hélas, elle ne ressemblait en rien à ma bienfaitrice.
Néanmoins, cette nouvelle venue me proposa de rester la pension aux mêmes conditions. J'acceptai, mais au bout de 2 mois, mon vilain défaut et ma mauvaise tête me firent prendre une résolution désespérée.
Et à propos de quoi ?
Autant ma première maîtresse avait été pour moi affectueuse et bonne, autant celle qui lui succéda fut impérieuse et dure. Un jour, et le beau visage d'Herminie se colora d'une vive rougeur à ce souvenir.
Un jour, reprit-elle, cette dame m'adressa un de ces reproches qui blessa jamais le cœur. Elle me dit
« Que vous dit-elle, cette méchante femme ?»
demanda vivement madame de Beauménil, car Herminie s'était tout à coup interrompue, n'osant, de peur d'affliger cruellement la comtesse, répéter ces dures et humiliantes paroles qu'on lui avait adressées.
« Vous êtes bien orgueilleuse, pour une petite bâtarde élevée dans cette maison par charité. »
« Que vous a-t-elle dit, cette femme ?»
reprit madame de Beauménil.
« Permettez-moi, madame, répondit Herminie, de ne pas vous répéter ces cruelles paroles. Je les ai, sinon oubliées, du moins pardonnées. Mais le lendemain, j'avais quitté la pension avec mon petit trésor, fruit de mes leçons et de mes économies, ajouta la jeune fille en souriant. C'est grâce à ce trésor que j'ai pourvu aux frais de mon ménage, comme vous dites, madame la comtesse, car dès lors j'ai vécu seule chez moi.
Herminie prononça ce mot « chez moi » d'un air si gentiment glorieux, important et satisfait, que madame de Beauménil, les larmes aux yeux, le sourire aux lèvres et entraînée par le charme de ses confidences ingénues, prit la main de la jeune fille assise à son chevet et lui dit
« Je suis sûre, mademoiselle l'orgueilleuse, qu'il est charmant votre chez vous.
Oh, pour cela, madame, il n'y a rien de trop élégant pour moi.
Vraiment, voyons, combien de pièces à votre appartement ?
Une seule, avec une entrée.
Mais au rez-de-chaussée, cela donne sur un jardin. C'est tout petit. Aussi, j'ai pu me permettre un joli tapis, une tenture et des rideaux de Perse. Je n'ai qu'un fauteuil, mais il est en velours brodé.
Par moi, bien entendu.
Enfin, je possède peu de choses, mais ce peu est, je crois, de bon goût.
Ce n'est pas tout.
J'avais une ambition et je la réaliserai bientôt. et cette ambition. C'était d'abord une petite bonne, une enfant de 13 ou 14 ans, que j'aurais retirée d'une position pénible et qui se fût trouvée heureuse avec moi. Cela s'est rencontré à souhait. On m'a parlé d'une petite orpheline de 12 ans, du meilleur cœur et du meilleur caractère, m'a-t-on dit. Aussi, madame la comtesse, jugez combien je serai contente quand je pourrai la prendre à mon service. Ce ne sera pas d'ailleurs une folle dépense. Ainsi, du moins, je ne sortirai plus seule pour aller donner mes leçons. Et c'est cela qui me coûte le plus, car vous concevez, madame, une femme seule. » Herminie n'acheva pas. Une larme de honte lui vint aux yeux. En songeant à la grossière poursuite de M. de Raville, pénible incident auquel la jeune fille avait été quelquefois exposée, malgré la modestie, la dignité de son maintien. « Je vous comprends, mon enfant, et je vous approuve, » dit Madame de Beauménil, de plus en plus attendrie. « Mais vos leçons, qui vous les procure? Et puis enfin, ne vous manquent-elles jamais ?»« Rarement, Madame la Comtesse. Et l'été, lorsque plusieurs de mes écolières vont à la campagne, j'ai recours à d'autres ressources. Je brode aux petits points, je grave de la musique, je compose quelques morceaux, et puis enfin, j'ai conservé d'amicales relations avec plusieurs de mes amies de pension. » C'est grâce à l'une d'elles que j'ai été adressée à la femme de votre médecin, madame la comtesse, lorsqu'il cherchait une jeune personne, assez bonne musicienne, pour être placée auprès de vous. » À cet instant, Herminie, qui avait commencé son récit assise sur un fauteuil auprès du chevet de la comtesse, se trouva assise sur le lit et presque enlacée dans les bras de sa mère. Tous deux avaient imperceptiblement cédé, presque sans en avoir conscience, à la toute-puissante attraction des sentiments filiales et maternels, car Madame de Beauménil, après avoir fait placer Herminie auprès d'elle, avait osé, l'imprudente mère, conserver entre ses mains une des mains de sa fille pendant cette narration simple et touchante. Alors il était advenu ce qui arrive lorsqu'un téméraire, s'approchant de quelque formidable rouage en mouvement, lui donne la moindre prise sur soi. Il est aussitôt entraîné par cette irrésistible attraction. Ainsi, à mesure qu'Herminie racontait à sa mère sa vie passée, elle avait senti la main de Madame de Beauménil serrer d'abord la sienne, puis l'attirer peu à peu près d'elle, jusqu'à ce qu'enfin, assise sur le lit de sa mère, celle-ci lui eût jeté ses bras autour du cou. Cédant alors à une sorte de frénésie maternelle, Madame de Beauménil, au lieu de continuer l'entretien et de répondre à sa fille, saisit la tête charmante d'Herminie entre ses deux mains et, sans prononcer une parole, la couvrit de larmes et de baisers passionnés. La mère et la fille restèrent ainsi embrassées dans une muette et convulsive étreinte. Sans doute, leur secret, si difficilement contenu jusqu'alors, et qui une fois déjà leur était venu aux lèvres, leur eût échappé cette fois si toutes deux n'eussent été soudain rappelées à elles-mêmes en entendant frapper à la porte de la chambre à coucher. Madame de Beauménil, épouvantée du parjure qu'elle allait commettre, revint heureusement à la raison, et, confuse, anéantie, ne sachant comment expliquer à sa fille cet emportement de folle tendresse, elle dit, d'une voix entrecoupée, en dégageant doucement Herminie de son étreinte, « Pardon, pardon, mon enfant, mais je suis mère. Ma fille est au loin, son absence me cause des regrets affreux. Ma pauvreté était bien affaiblie, et dans mon illusion, un instant, je ne sais comment cela s'est fait, mais c'est elle, ma fille, si cruellement regrettée, que j'ai cru serrer sur mon cœur. Soyez indulgente pour cet égarement maternel. Il faut, voyez-vous, avoir pitié d'une pauvre mère qui se sent mourir sans pouvoir embrasser une dernière fois son enfant. » « Mourir ? » s'écria la jeune fille en relevant son visage inondé de pleurs et regardant sa mère avec épouvante. Mais entendant heurter de nouveau, Herminie essuya précipitamment ses larmes et eut assez d'empire sur elle-même pour paraître presque calme en disant à sa mère, « Voici la seconde fois que l'on frappe, madame la comtesse. » « Faites entrer, » murmura madame de Beauménil, accablée par cette scène. La femme de chambre de confiance de la comtesse parut et lui dit, « Selon les ordres de madame, j'ai attendu monsieur le marquis de Maillefort. » « Eh bien, » demanda vivement madame de Beauménil, « viendra-t-il ? » « Monsieur le marquis attend au salon que madame la comtesse puisse le recevoir. » « Ah, Dieu soit béni !» murmura madame de Beauménil en regardant sa fille. « Le ciel me récompense d'avoir eu la force de tenir mon serment. » S'adressant ensuite à sa femme de chambre, « Vous allez introduire ici, monsieur de Maillefort. » Herminie, brisée par tant d'émotions et sentant l'inopportunité de sa présence, prit son mantelet et son chapeau afin de se retirer. La comtesse ne la quittait pas du regard. c'en était fait. Elle voyait sa fille pour la dernière fois, peut-être, car la malheureuse mère sentait à bout les forces qu'elle avait puisées dans une surexcitation factice. Madame de Beauménil eut pourtant le courage de dire à Herminie, d'une voix presque assurée, afin de lui donner le change sur son état, « À demain, notre morceau d'Oberon, mademoiselle. Vous aurez la bonté de venir de bonne heure, n'est-ce pas ?»«
Oui, madame la comtesse, » répondit Herminie.
« Madame Dupont, reconduisez mademoiselle, » dit la comtesse à sa femme de chambre. « Vous introduirez ensuite monsieur de Maillefort. » Suivant alors d'un regard déchirant sa fille qui se dirigeait vers la porte, madame de Beauménil ne put s'empêcher de lui dire une dernière fois « Adieu, mademoiselle. »«
Adieu, madame la comtesse, » répondit Herminie.
Et ce fut dans ces mots imposés par un froid cérémonial que ces deux pauvres créatures, brisées et déchirées, exhalèrent leur désespoir à ce moment suprême où elles se voyaient pour la dernière fois. Madame Dupont reconduisit Herminie sans la faire passer par le salon où attendait M. de Maillefort. La jeune fille sortait de l'appartement lorsque Madame Dupont lui dit avec intérêt « Vous oubliez votre parapluie, mademoiselle, et vous en auriez bien besoin. Il fait un temps affreux et il pleut à verse. »
« Je vous remercie, madame, » dit Herminie allant prendre son parapluie qu'elle oubliait auprès de la porte du salon d'attente où elle l'avait déposé. En effet, il pleuvait à torrents. Mais c'est à peine si Herminie, abîmée dans sa douleur, s'aperçut que la nuit était pluvieuse et noire lorsque, sortant de l'hôtel Beauménil, elle s'aventura seule dans ce quartier désert pour regagner sa demeure.